L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.
Vendredi 30 mai, à la salle Henri Barbin, au Mans, Marietta Caramanli, députée PS et apparentée de la deuxième circonscription de la Sarthe, organisait une rencontre-débat autour du sujet de la santé environnementale, aux côtés de la députée Philippe Grandcola, directeur de recherche au CNRS, et Sandrine Vinchon-Petit, oncologue. La soirée a soulevé les principaux enjeux autour de la santé environnementale, connaître les risques, susciter des engagements politiques en cohérence avec les connaissances établies par les scientifiques. Il a beaucoup été question de la loi Duplomb 2 qui poursuit son parcours législatif, une loi qui envisage de réinsérer l'acétamipride dans l'agriculture française. Sa précédente tentative en 2025 a été censurée par le Conseil constitutionnel. En parallèle, Marietta Caramanli propose une résolution européenne pour interdire ce néonicotinoïde à l'échelle de l'UE. On l'écoute à ce sujet. Marietta Caramanli, vous avez déposé une proposition de résolution européenne pour interdire l'acétamipride au niveau européen. Ça n'est pas passé en commission, vous avez prévu de la redéposer?
Bien sûr, c'est un, comme on disait aujourd'hui à cette réunion, c'est un combat de longue haleine. En fait, il ne faut pas s'arrêter en premier obstacle. Il faut continuer à informer, continuer à apporter de nouveaux arguments, à militer de telle sorte qu'on arrive à convaincre d'autres forces politiques à nous rejoindre dans ce combat, avec l'aide des chercheurs, avec l'aide de la recherche et des résultats qu'ils apportent. Et redéposer, parce que parfois il y a une évolution, c'est des signatures, mais c'est aussi le moment venu, le vote qui peut manquer par une ou deux personnes.
Parallèlement, la loi Duplomb 2, elle continue son parcours législatif. Vous la visez directement, cette loi Duplomb, avec cette proposition?
Alors, bien sûr, elle était visée directement, mais de l'autre côté aussi, comme vous dites, elle continue son chemin. Elle va continuer aussi, d'ailleurs, à travers la nouvelle loi, le projet de loi sur l'urgence agricole. Et je pense que la pétition qui a quand même obtenu plus d'un million de personnes qui se sont mobilisées sur ce sujet montre que la population, elle est sensible, elle suit, et elle sait juger. Et donc je crois que les politiques devraient aussi regarder, parce qu'ils seront aussi jugés par cette population-là et pas uniquement par certaines catégories professionnelles.
Philippe Grandcola, vous avez été auditionné dans les débats autour de la loi Duplomb. Quel est votre regard sur cette loi?
Alors malheureusement, la loi Duplomb, elle ne résout aucun des problèmes des agriculteurs. Il faut se rendre compte en fait qu'elle ne touche qu'à peu près 15% des entreprises agricoles ou d'élevage en France, et elle ne touche pas les entreprises qui ont de gros problèmes. Donc elle ne résout pas finalement les problèmes de l'agriculture française, hein, le problème des petites PME agricoles qui ont du mal à être rentables, des agriculteurs, des éleveurs qui travaillent énormément pour gagner très peu, qui sont dans des situations désespérées. Et pire encore, cette loi, dans sa première formule, elle assouplissait des règles d'usage des pesticides ou l'établissement de bassines qui sont destinées à des cultures très particulières, là encore, qui ne touchent pas l'ensemble des entreprises agricoles. Elle avait des dispositions qui n'étaient guère utiles. Et la seconde loi, qui est encore dans son parcours parlementaire aujourd'hui, elle se propose à nouveau de réintroduire l'acétamipride en pulvérisation sur des arbres fruitiers, et puis d'autre part le flupyradifurone pour enrober les graines de betterave. Et là encore, on est encore sur l'utilisation de substances pesticides qui ne sont pas indispensables, qui posent de gros problèmes pour la biodiversité, pour les pollinisateurs, pour les oiseaux, etc., et qui ont des rôles fonctionnels à jouer en agriculture, et puis qui posent aussi des problèmes en termes de santé humaine, hein, puisque depuis plusieurs années, l'Agence de sécurité alimentaire européenne, l'EFSA, demandait qu'on mène de nouvelles études sur la toxicité de l'acétamipride en regard du développement du système nerveux chez les humains, puisqu'on le retrouve dans le système nerveux des enfants, et ces études n'ont pas été menées, et aujourd'hui, le principe de précaution devrait imposer que l'on n'utilise pas cette molécule.
Justement, vous l'avez rappelé, ce principe de précaution et son rôle. Est-ce que le respect de ce principe à la lettre ne devrait pas conduire à l'interdiction de toutes les substances potentiellement dangereuses?
Alors effectivement, on devrait interdire un grand nombre de substances sur la base de ce principe de précaution. Il faut se rappeler par ailleurs que tous les établissements publics comme l'INRAE ou le CNRS montrent que l'on peut cultiver en agroécologie, donc on devrait aller vers une transformation progressive. Évidemment, l'idée, ce n'est pas d'empêcher des entreprises agricoles de continuer à vivre s'inédier. L'idée, c'est au contraire de les aider à se transformer et dans le même temps de diminuer de plus en plus et à la fin interdire de plus en plus de substances pesticides dont on sait pour certaines d'ores et déjà qu'elles sont particulièrement dangereuses et pour d'autres qu'elles ont des présomptions d'effets toxiques sur les humains. Donc on devrait être dans une transformation du système agricole et malheureusement aujourd'hui on s'intéresse uniquement à produire de la nourriture pour les animaux ou des agrocarburants et on ne s'intéresse pas à une agriculture vivrière de qualité qui nuirait ni à la biodiversité ni aux humains et qui permettrait à des agriculteurs de vivre dignement. Et ce n'est certainement pas les propositions de loi du plomb qui permettent ce type d'avancée.
Sandrine Vinchon-Petit, l'oncologue présente sur la Réunion, est elle aussi très critique à l'égard de la loi du plomb. Elle a constaté les risques.
Vous êtes oncologue. Est-ce qu'au cours de votre carrière, vous avez pu constater un rapport entre agriculture et cancer ?
Oui, tout à fait. J'ai travaillé beaucoup en neurosciences et en neuro-oncologie. Et en fait, j'étais amenée à prendre en charge des patients qui étaient atteints de tumeurs cérébrales. Et j'ai constaté qu'il y avait énormément de patients qui habitaient en zone rurale. Et dans ces patients qui étaient en zone rurale, il y avait aussi beaucoup d'agriculteurs, oui. Mais les pesticides sont un facteur reconnu de tumeurs cérébrales.
Pas que des agriculteurs ?
Pas que des agriculteurs, il y avait aussi des gens qui vivaient en zone rurale. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même une prédominance d'agriculteurs dans cette population de gens atteints par des tumeurs cérébrales.
La santé environnementale, est-ce que c'est un sujet qui est abordé au cours de vos études médicales ?
Pas du tout. Pas du tout, c'est une notion assez nouvelle et récente, hein, la santé environnementale. Et comme je le disais, elle ne peut pas être dissociée maintenant de la santé. En fait, quand on parle de santé, on doit obligatoirement parler de santé environnementale. Pour moi, c'est une évidence.
Pour parler d'actualité, avec la loi Duplomb, un comité scientifique a exposé le risque sanitaire de cette loi. Ces scientifiques ont appelé les parlementaires à ne pas à voter la loi. Laurent Duplomb, lui, considère que les scientifiques sont alors sortis de leur rôle en s'adressant directement aux parlementaires. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que les scientifiques doivent effectivement éviter toute prise de parole politique ?
Les scientifiques, je crois, doivent faire des rapports qui doivent rester factuels et objectifs. Et après, voilà, ce sont aux politiques d'utiliser ces rapports qui doivent être, à mon avis, les plus objectifs possibles pour qu'on puisse en tirer le plus d'informations, en fait.
Dans le public, il y avait des associations, mais aussi des professionnels de la santé, comme Françoise Bénard. Elle est médecin généraliste depuis 30 ans au Mans. Elle a interpellé la salle pour alerter sur un risque peu considéré.
Une population me paraît particulièrement exposée aux pesticides, ce sont les sportifs. En effet, dans ma patientèle, j'ai pu constater que des patients qui ne sont pas obèses, qui ne fument pas, qui mangent bio, qui ont une bonne hygiène, mais qui font du sport sur les petites routes de campagne ou qui font de la rando sur des chemins de randonnée en campagne, eh bien ces gens-là se mettent à développer des cancers. Lymphome, cancer de prostate, cancer du poumon. Ces usagers des petites routes départementales ne sont absolument pas protégés. Ils ne savent pas qu'il y a certaines périodes où les épandages sont quotidiens. C'est-à-dire du 1er octobre à fin novembre, il ne faudrait pas mettre le pied dehors en campagne. C'est la période où de nombreux herbicides sont répandus sur les terres. Pareil au mois de mars. De nombreux épandages ont lieu à cette période-là et les sportifs ne sont pas prévenus. Or, une étude a montré qu'en installant des haies au bord des champs de grandes cultures et en utilisant des buses spéciales pour enfouir les pesticides, on arrivait à limiter à 96% la diffusion aérienne des pesticides. Donc, nous demandons aux services départementaux, aux services qui s'occupent de la voirie, de protéger nos patients, cette patientèle-là. Les bébés aussi, les femmes qui se promènent leurs enfants le long avec leurs petits vélos le long des routes, eh bien, ils sont en danger.
Il faisait très chaud dans la salle Henri Barbin. Rappelez-vous, nous étions sur les derniers jours de la canicule inédite de la fin du mois de mai. Le réchauffement climatique, c'était l'autre grand sujet abordé par le directeur de recherche Philippe Grand-Collard.
Pour évoquer un autre sujet de santé environnementale, on a très chaud en ce moment. On vit un épisode caniculaire qui ne devrait pas avoir lieu normalement, mais qui est rendu possible par le réchauffement climatique. Le GIEC publie chaque année des constats, des prévisions alarmantes, accompagnées de recommandations pour limiter le réchauffement. Mais il ne semble pas écouté. Est-ce que les chercheurs se sentent ignorés ? Est-ce que ça décourage la recherche ? Voire, est-ce que vous avez été témoin, voire victime de censure pure et simple ?
Alors effectivement, les chercheurs et en particulier mes collègues climatologues qui travaillent dans le cadre de la plateforme intergouvernementale du GIEC ou d'ailleurs leurs homologues spécialistes de la biodiversité qui travaillent dans la plateforme analogue sur la biodiversité, l'IPBES, évidemment, ils se sentent très mal hein, finalement quand des années de travaux et puis des années de synthèse qui montrent des choses assez évidentes ne sont absolument pas prises en compte par les décideurs, par les gouvernements, par les élus. Donc on est vraiment finalement dans une situation, on se rend compte aujourd'hui que face à des des situations d'urgence, avec des conflits d'intérêts, avec de l'anxiété. Mais on est dans une situation finalement stationnaire, hein, où les décideurs ne prennent pas les bonnes décisions et on voit qu'on commence à en payer le prix. Il faut savoir qu'un choc de chaleur comme celui qu'on vit actuellement, ça a des effets sur la production agricole. Même si on n'est encore pas dans une catastrophe, on est dans une situation qui peut empêcher certaines productions d'être de qualité au final. Et puis ça a des effets évidents sur la santé humaine. Il y a déjà eu des décès en France du fait de ce pic de chaleur qui est complètement en dehors des normales saisonnières et dont l'occurrence est évidemment reliée au changement climatique.
Alors, dernière question, puisque les chercheurs ne sont pas écoutés, est-ce qu'ils devraient prendre la parole politiquement ?
Alors effectivement, on peut imaginer toutes sortes de stratégies. On a des jeunes chercheurs qui se rebellent. Moi, je les comprends tout à fait. On a des chercheurs qui s'engagent finalement dans des mouvements politiques. C'est finalement ce que devraient faire tous les citoyens qui ont envie de participer à la vie de la chose publique. Je pense qu'il faut aussi que la science garde son indépendance en termes de production de connaissances. Elle ne devrait pas être prescriptive, on n'a pas à vivre dans une dictature scientifique, hein, mais par contre, on doit s'alarmer du fait que des décideurs ne prennent pas en compte les connaissances scientifiques. Bah, c'est tout simplement une manière d'aller vers de gros problèmes dans un futur assez proche.
Les dernières conclusions du GIEC prévoient d'ailleurs un scénario d'un réchauffement à 3,2 degrés d'ici 2100, selon la trajectoire actuelle. Un climat aux conséquences mortelles pour l'homme. La priorité est donnée à la baisse des émissions de gaz à effet de serre.
L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.